Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors on commence par la revue de presse, comme d'habitude, avec ce nouveau drame en Méditerranée. Ces migrants qui ont fait naufrage en tentant de venir en Europe, et dont Maëlys vous reparlera tout à l'heure. Alors Le Monde, comme Le Figaro, développe des articles assez techniques sur le sujet. Le Monde rapporte les propos de la commissaire européenne à l'immigration. Les événements nous ont dépassés. Ah bon ? Et détaille les pistes envisagées en urgence par l'Union européenne. Et quand le journal demande pourquoi les responsables européens, je cite, « ont attendu des catastrophes humaines, pourtant maintes fois annoncées », la commissaire à l'immigration élude et la commissaire aux affaires étrangères philosophe. C'est difficile parfois d'être un responsable politique. Alors Le Figaro, lui, jamais à court de bonnes idées, nous propose des solutions, citant le très conservateur Premier ministre australien Tony Abbott. Le seul moyen d'empêcher ces tragédies est de mettre fin à l'arrivée des bateaux. Il est urgent que les Européens adoptent une politique très ferme. Bah oui, hein. L'Australie, elle pratique une politique très ferme envers les migrants, elle n'en accepte absolument aucun.
Une solution radicale et sans nuance.
Eh oui, Lino, à l'opposé de la une de Libération, mercredi 22 avril, une choc. Méditerranée, pourquoi il faut légaliser l'immigration? Dans une interview, Emmanuel Auriol, économiste à Toulouse, explique qu'il faudrait vendre des visas aux migrants pour donner un cadre légal à cette immigration nord-sud. Et elle argumente avec l'idée que, de toute façon, les pays européens manquent de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs, comme le BTP. Cela aurait, selon elle, pour autre avantage de dégonfler drastiquement les réseaux de passeurs, qui profitent de la misère de ces migrants. Et sur le drame en lui-même, le journal rappelle que l'opération Triton de surveillance des côtes, menée par l'Union européenne, est bien moins efficace en termes d'aide aux migrants en chaloupe que Mare Nostrum, le programme italien, stoppé il y a peu, parce que peu de moyens. Et si Triton a remplacé Mare Nostrum, c'est aussi parce que l'Union refusait de participer à son financement. Et pendant que des gens se noient en Méditerranée, d'autres passent à la télé.
Tu penses à Bachar el-Assad ?
Oui, évidemment. Bachar el-Assad qui est passé sur France 2, lundi 20 avril. Une grande interview pilotée par un grand journaliste, David Pujadas, présentateur du journal de soir de la dite chaîne. Et ce qui m'a frappé, eh bien, ce n'est pas que le président syrien développe une fois de plus sa rhétorique habituelle sur « les opposants sont des terroristes », etc. Elle est connue. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que Le Monde loue, eh bien, tenez-vous bien, la ténacité de David Pujadas lors de cette interview. Le présentateur du journal de France 2 a pourtant fait preuve de ténacité, puisque, tenez-vous bien, il a montré à Bachar el-Assad des photos des armes utilisées par le régime. Hein. Et si David Pujadas pouvait s'avérer aussi combatif lorsqu'il modère des débats politiques en France, peut-être que la chaîne et la politique française s'en porteraient mieux. Enfin bref. Beaucoup de bruit pour rien, dit Libération à propos de cette interview. Le journal pointe du doigt la participation de France 2 au plan de communication du président syrien, qui a multiplié ces derniers mois les entretiens avec des médias occidentaux. Je cite Libération. « Il y a 2 ans, Bachar el-Assad était un dictateur assiégé. Aujourd'hui, grâce à ses interviews, le voilà relancé dans la voie d'une reconnaissance et de sa légitimité. » Et Libération cite David Pujadas, qui parle pour cette interview d'un véritable exercice journalistique qui participe à l'information. C'est plutôt un exercice de style.
Et en France en ce moment, quoi de neuf sous ce beau printemps ?
Eh bien, beaucoup de bruit pour rien aussi, selon Le Figaro, mais pas à propos de l'interview de Bachar el-Assad, à propos d'une autre, celle de François Hollande sur Canal+. Dans son éditorial du 22 avril, Gaëtan de Capelle pointe la grande éloquence du chef de l'État au moment où la loi sur le travail va être discutée à l'Assemblée. Le gouvernement renonce à réformer le code du travail, titre encore le journal. Et Gaëtan de Capelle développe un argumentaire assez classique de la droite libérale. Il faut en finir avec les seuils sociaux, les 35 heures, le statut d'intermittent du spectacle. Bref, un éditorial qui lui aussi fait beaucoup de bruit pour rien. Surtout que, bon bah visiblement, le code du travail, s'il y a un endroit où il est bien inexistant, c'est à l'Élysée même.
Comment ça à l'Élysée ?
Eh bien c'est Marianne qui révèle la chose, dans le numéro de la semaine du 17 avril. Après un dossier racoleur et assez mauvais sur ce que c'est qu'aimait la France, laissant beaucoup d'hommes politiques développer des propos creux inintéressants, l'hebdomadaire fait la lumière sur l'absence d'élections professionnelles au palais, l'absence de règlement intérieur, l'absence de sécurité, notamment en cuisine, ou de contrat de travail pour certains. Les personnels peuvent être en effet être remerciés, en clair virés, notamment les contractuels qui travaillent dans les jardins ou la cuisine. Alors si la Cour des comptes a déjà pointé le problème, sa résolution tarde à venir, et après ça, le gouvernement veut libéraliser et réformer le pays.
Ah, sympathique tout cela.
Oui, comme tu dis Lino, et peu encourageant. Alors cette revue de presse est terminée, mais l'information évidemment continue. Alors Jérémy, tu vas nous parler énergie aujourd'hui, sur un sujet que Mediapart a sorti il y a peu, il est question d'écologie.
Mais oui, d'écologie, d'innovation et de la France en 2050, rien que ça. Alors c'est le site Mediapart qui nous en a donné l'idée en publiant il y a 15 jours un article intitulé « Énergie, le rapport caché sur une France 100% renouvelable ». Titre alléchant, hein. Il s'agissait en fait de rendre compte d'un rapport de l'ADEME. Bon, j'imagine que personne ici ne sait ce que c'est.
Non,
l'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Une structure qui existe depuis plus de 20 ans, qui est rattachée au ministère de l'Écologie et de l'Énergie, justement. Et sa mission, eh bien, c'est tout simplement d'organiser les politiques publiques pour tout ce qui concerne l'énergie et le développement durable.
Et pourquoi Mediapart s'est intéressé à ce rapport ?
Eh bien, avant tout parce que, allez en croire, l'ADEME a essayé de cacher ce rapport sous le tapis.
Tiens donc.
En ne le rendant pas public, alors que c'était prévu initialement. Mediapart a donc mis en ligne ce rapport, ce qui a contraint l'ADEME à le publier aussi à son tour. Alors, l'agence prétend, par la bouche de son président, qu'il fallait mener des études complémentaires pour présenter un document scientifiquement rigoureux. Mais Mediapart n'en croit pas un mot. Le site web pense plutôt que les conclusions de ce rapport pouvaient gêner certains acteurs de l'industrie française, notamment dans le domaine nucléaire. Alors, bien entendu, impossible de savoir qui a raison dans l'histoire, c'est l'interprétation de Mediapart contre les dénégations de l'ADEME.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ?
Justement, n'écoutant que mon courage, j'ai décidé d'en faire la lecture moi-même.
Jérémy, chevalier des documents administratifs.
C'est ça. Alors, c'est un document d'une centaine de pages, intitulé « Vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050 ». Bon, rappelons déjà ce qu'est le mix électrique, parce que c'est de cela qu'il est question. C'est tout simplement un outil qui nous informe sur ce que nous utilisons pour produire notre électricité. Par exemple, en France, dans notre mix électrique, nous utilisons environ 75% de nucléaire. Donc la part du nucléaire y est écrasante. Or, en plus d'être potentiellement dangereux, le nucléaire emploie l'uranium comme combustible, donc une ressource fossile. Et l'objectif à très long terme pour tous les gouvernants, ce serait évidemment de remplacer tout cela par des énergies renouvelables. Et c'est cela que le rapport tente de mettre en place.
Et qu'est-ce que ce rapport propose comme solution ?
Leur hypothèse de départ, c'est d'affirmer qu'on peut obtenir un mix électrique entièrement composé d'énergies renouvelables d'ici 2050. Le tout en satisfaisant la consommation et sans trop augmenter les tarifs. Et la conclusion du rapport, c'est que tout cela est parfaitement envisageable, ce qui va donc contre la doxa qu'on entend souvent sur le sujet.
On ne peut pas dire « je défends l'industrie et je remets en cause la filière nucléaire ». La filière nucléaire, c'est la garantie pour vous d'une énergie à bon marché. On n'a pas le droit de rompre le consensus politique de 65 ans.
Voilà, c'était Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Parce que le problème, bien entendu, il est aussi politique et économique. Or, le rapport montre que c'est technologiquement et économiquement possible de passer au tout renouvelable. Alors, impossible d'entrer dans le détail technique qui me dépasse largement, je vais pas le nier. Mais disons schématiquement qu'il s'agirait de se concentrer sur l'éolien et sur le photovoltaïque. Le rapport passe à ce sujet en revue les scénarios les plus abominables qui soient, par exemple une sécheresse, une vague de froid ou une absence prolongée de vent dans le pays. Et il conclut à chaque fois que cela n'entrave pas la possibilité de s'appuyer uniquement sur des énergies renouvelables.
Et du coup, vu ces solutions, est-ce qu'il est possible que ce rapport change quelque chose à notre politique énergétique ?
Malheureusement, il y a assez peu de chances. Déjà parce qu'il n'est sans doute pas sans faille ce rapport du point de vue de sa méthodologie. Bon alors on passera avec indulgence sur le fait que l'étude porte sur un marché où, je cite, « la concurrence est libre et non faussée ». Après tout on a le droit d'y croire et ce n'est qu'une hypothèse de travail. Mais seuls les critères techniques sont pris en compte. Le rapport ne tient pas compte par exemple de l'impact sur les emplois, alors que c'est précisément sur ce qui risque de mal passer dans la filière nucléaire. Et surtout, ce rapport ne survient sans doute pas au bon moment pour le gouvernement. L'Assemblée devrait examiner en mai une loi sur la transition énergétique présentée par Ségolène Royal. C'est un texte qui prévoit la fermeture de certains réacteurs nucléaires, mais pas de manière autoradicale. Et il y a aussi la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l'année. Or, le gouvernement aimerait bien qu'il en sorte quelque chose, et pour cela, mieux vaut éviter de froisser quiconque en s'attachant à des propositions trop drastiques. C'est assez mal parti par conséquent. Du coup, projet de substitution, en même temps que le mix électrique, c'est peut-être la classe politique qu'il faudrait renouveler d'ici 2050.
On a peut-être un peu d'espoir.